Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et le premier pionnier du réveil charismatique en France est Thomas Roberts. Thomas Roberts, qui est gallois, qui est né en 1900, donc au pays de Galles, qui, jeune enfant, a connu le grand réveil de 1905. Comme il le dit, il est né dans le feu. Et très jeune, Thomas Roberts s'est élevé pour le service de Dieu. Et il a rejoint l'église apostolique du pays de Galles, qui avait représenté l'essentiel du mouvement de Pentecôte dans cette région de la Grande-Bretagne. Le mouvement apostolique, comme on aura l'occasion de le voir, est né à Penygroes, au pays de Galles, et il a été l'essentiel du mouvement pentecôtiste au pays de Galles. Thomas Roberts a donc connu les choses de l'esprit, et il a été appelé au service de Dieu par prophétie, et notamment la prophétie précisait que son ministère serait pour la France. Et c'est ainsi que, répondant à cet appel de Dieu, Thomas Roberts est arrivé donc en 1928 en France. C'était donc avant même, on peut dire, Douglas Scott. Et nous avons vu que Thomas Roberts a été à l'origine des premières petites réunions pentecôtistes qui ont eu lieu, notamment dans la région parisienne, dans Paris directement et sa région. Thomas Roberts est devenu second pasteur dans ces années-là, entre 1928 et 1938. Il est devenu second pasteur de l'église réformée de Passy, à Paris, une des grandes églises réformées parisiennes. Je n'ai plus très bien en mémoire si pour cela il a fait des études spéciales ou bien si le fait qu'il avait été formé en Angleterre avait suffi pour cela. Toujours est-il qu'il est donc devenu second pasteur. Et l'église de Passy avait une petite annexe qui s'était située rue de Musset, dans le 16e. Thomas Roberts s'est occupé plus particulièrement de cette annexe. Il s'est surtout attaché à faire de l'évangélisation. Il avait un accent très fort sur l'évangélisation et il a développé dans un courant charismatique cette annexe donc de l'église réformée de Passy qui était l'église de la rue de Musset. En 1938, il a rompu avec l'église réformée. Et l'église de la rue de Musset est devenue donc une église indépendante, une église pentecôtiste indépendante, non rattachée aux Assemblées de Dieu. Et pendant tout son ministère, Thomas Roberts est resté donc hors des Assemblées de Dieu. Il n'a pas non plus rejoint d'ailleurs la petite église apostolique française qui s'est créée dans ces milieux-là, il est resté indépendant. L'église de la rue de Musset était sa base. Et il s'est surtout fait connaître pendant toutes ces années-là, jusqu'aux années 70 à peu près, par ses missions d'évangélisation. Et il était un évangéliste assez renommé et organisait donc des missions d'évangélisation avec sous la tente en particulier. C'était l'époque où les tentes, les campagnes d'évangélisation sous tente marchaient relativement bien. Et donc il a essentiellement consacré son ministère à cela. Le réveil charismatique a eu un deuxième pôle, dont nous avons déjà parlé, entre les années 30 et 32, dans le petit village de Charmes, dans l'Ardèche, où le pasteur Louis Dallière était pasteur de l'église réformée, donc de Charmes, de la petite ville de Charmes. Et là, l'Ardèche avait été touchée dans ces années-là par deux mouvements. D'une part, le mouvement des brigadiers de la Drôme, et d'autre part, 30-32, c'est l'arrivée de Douglas Scott en France, donc les débuts du mouvement de Pentecôte français. Nous avons vu que Douglas Scott avait pour vision première de travailler avec les églises protestantes établies. Et lorsqu'il a étendu ses cordages, pourrait-on dire, vers le sud-est de la France, et notamment vers l'Ardèche, il a été amené à prendre contact avec les pasteurs de cette région, d'autant que c'était précisément dans cette région que était originaire le réveil de la Drôme. Nous avons vu également comment les contacts entre Douglas Scott et les pasteurs de la Drôme, et notamment ceux de la brigade missionnaire, s'étaient mal passés, la faute étant partagée. Et finalement, la brigade missionnaire avait été amenée à prendre position très fortement contre le mouvement de Pentecôte, allant jusqu'à dire que c'était quelque chose qui venait de l'Antichrist. Bon, vu que le mouvement de réveil de la Drôme ne s'est pas remis de cette prise de position quasi blasphématoire, pourrait-on dire. Mais tous les pasteurs de l'Ardèche n'ont pas réagi de cette manière-là. Et notamment Louis d'Allières et son frère Émile, qui était beaucoup plus jeune que lui, sont entrés dans le réveil pentecôtiste, mais sans pour autant quitter leurs églises. Et c'est ainsi que, alors que d'autres prenaient aussi position dans le mouvement Pentecôte, notamment en Suisse, dans la mouvance du pasteur Alexander, a été créé, juste après la guerre, en 1946, ce qui s'est appelé l'Union de prière de Chartres. Pendant toute la durée de la guerre, en effet, et à partir des années 30, Charmes, sous la direction du pasteur d'Allières, avait été l'épicentre d'un réveil de type pentecôtiste, qui était en relation d'ailleurs avec des réveils un peu semblables qui avaient lieu en Suisse. Dans ces années 30, 30 à 39, jusqu'à la veille de la guerre, avaient lieu dans la Suisse romande, des mouvements qui aussi étaient touchés par le pentecôtisme, beaucoup plus d'ailleurs par le pentecôtisme anglais que par Douglas Scott, bien que Douglas Scott était aussi originaire d'Angleterre, mais la Suisse romande, et la Suisse allemande d'ailleurs, mais la Suisse romande essentiellement, était touchée par les grands pionniers du mouvement de Pentecôte britannique, tels que les frères Jeffreys notamment, et aussi Donald G. Et sous la direction du pasteur Fritz de Rougemont, du pasteur de Perrault, des activités de type pentecôtiste avaient lieu un peu partout en Suisse romande, et notamment des retraites annuelles qui avaient lieu au Mont Pèlerin, on en a déjà parlé la dernière fois, au-dessus de Vevey, et dans d'autres lieux de Suisse romande où s'organisaient aussi, à date fixe à peu près tous les ans, des retraites spirituelles qui groupaient des gens qui étaient originaires essentiellement de l'Église nationale, c'est-à-dire l'Église réformée suisse, mais aussi d'autres églises. Et l'idée, c'était de faire venir le réveil à l'intérieur des églises établies. Il n'était pas question de sortir des églises officielles. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est de constater que les pionniers du mouvement de Pentecôte anglais, tels les frères Jeffreys, étaient tout à fait dans cette vision-là. Il n'était pas question pour eux de briser les églises existantes. Charmes n'était pas si loin de la Suisse, et il y avait des contacts très nombreux, justement, entre les quelques communautés qui étaient touchées en Ardèche et puis celles qui se trouvaient donc en Suisse romande. Mais nous avons vu que très vite, l'Église réformée de France, même avant la Deuxième Guerre mondiale, s'est finalement alignée sur les brigadiers de la Drôme en prenant fortement position contre le réveil charismatique. Tant et si bien que le groupe de Charmes, comme on commençait déjà à l'appeler à cette période-là, s'est trouvé quelque peu marginalisé au sein de son Église et a été amené à mettre en veilleuse ses activités charismatiques, ou bien alors c'était la rupture avec l'Église réformée. Et cela, il ne voulait pas s'y résigner, d'autant que, en 1938, donc juste à la veille de la guerre, avait eu lieu le rassemblement donc de l'ERF, l'Église réformée de France, qui regroupait les deux grandes unions d'Églises réformées qui s'étaient divisées donc depuis des dizaines d'années maintenant, les églises réformées qui étaient restées évangéliques et les églises réformées qui étaient devenues libérales. Donc ces deux unions ont fusionné pour former l'Église réformée de France. Se sont jointes à elles aussi des petites églises telles que l'Église méthodiste, etc. Donc Louis d'Allières estimait que ce n'était pas le moment, au moment où il y avait cet élan de rassemblement, de rompre avec, avec les églises officielles. Et il a fallu donc attendre le lendemain de la guerre, donc 1946, pour que des négociations sérieuses s'engagent entre Louis Dallière et puis les autorités de l'Église réformée de France pour essayer de trouver un modus vivendi et pour que le groupe de Chartres constitue ce qu'on appelait une ecclesiola, ecclesiola in ecclesia, une petite église dans la grande église. Finalement, après des tractations très laborieuses, Louis Dallière et ceux qui étaient autour de lui, c'est-à-dire Arnold de Brémond, Jean-Daniel Fischer et Alain Schwartz, ont réussi à obtenir un accord donc, de la part des autorités de l'Église réformée. Alors, il y avait trois axes essentiels de la prière. En quelque sorte, Chartres s'est constitué comme une union de prière, c'est-à-dire une communion, qui d'ailleurs allait éventuellement au-delà des frontières de l'Église réformée, et qui avait, la prière de Chartres avait trois axes. Premièrement, le réveil de l'Église. Réveil, sous-entendu, réveil charismatique, bien entendu. Deuxièmement, l'unité de l'Église. C'était l'époque où le mouvement charismatique, le mouvement œcuménique aussi, donc, avait fait son chemin. Et troisièmement, l'illumination d'Israël. On évitait de parler de la conversion d'Israël, mais il y avait un accent très fort qui était mis justement sur Israël. Et l'ensemble de ces trois intentions de prière avait pour but de préparer l'Église à la parousie, c'est-à-dire au retour du Seigneur. Finalement, ces trois objectifs ne faisaient pas tellement problème pour les RF. Mais là où les négociations ont buté, c'est sur la question du baptême des adultes. Louis Dallière, à la suite de Scott, avait été, et d'ailleurs des revivalistes anglais, quelqu'un qui était en contact de l'autre côté de la frontière suisse, Louis Dallière était profondément convaincu que le baptême biblique était le baptême des adultes, le baptême par immersion. Mais cela, l'Église réformée ne voulait pas en entendre parler. Elle était prête à admettre le baptême dans le Saint-Esprit, elle était prête à admettre la manifestation des charismes, mais ne voulait pas du tout que soit remise en question la doctrine du baptême des enfants. Or, implicitement, à partir du moment où l'on déclarait que le seul baptême valable était le baptême des adultes par immersion, c'était une négation du baptême des enfants. Et les synodes de l'ERF ont mis le groupe de Chartres en demeure ou d'accepter le baptême des enfants ou de quitter l'Église réformée. Plusieurs églises ont été exclus de l'Église réformée à cette époque-là pour cette raison même, notamment ici en Bretagne, où le pasteur Paul Reynaud, qui était à Douarnenez, pasteur de l'Église réformée de Douarnenez-Quimper, lui aussi, dans ces années-là, est entré dans le réveil et s'est mis à baptiser par immersion. Là aussi, ce qui a fait problème n'était pas tellement le fait de vivre les charismes et de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'était la question du baptême des enfants. Le pasteur Paul Reynaud n'a pas voulu reconnaître le baptême des enfants. Il a donc été exclu de l'ERF pour cette raison. Alors, les gens de Chartres ont réfléchi et ils ont trouvé une solution qui est tout à fait discutable, mais qui a été leur vision des choses. Ils ont affirmé que quelqu'un qui avait été baptisé enfant, son baptême restait valable, mais avait besoin d'être confirmé par une immersion. Et cette solution a donc été considérée comme acceptable par les autorités de l'Église réformée. De telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, ce qui est pratiqué dans le groupe de Chartres, l'union de prière de Chartres, c'est ce qu'on appelle la confirmation du baptême. On comprend qui pourra. Mais enfin, c'était l'idée. Plus tard, un jeune pasteur belge, d'origine pentecôtiste d'ailleurs, mais qui était devenu un disciple de Thomas Roberts, et qui, sous sa, en quelque sorte sous sa houlette, a été amené à entreprendre des études de théologie réformée, est devenu pasteur de l'Église nationale suisse, donc l'Église réformée suisse, Jean-Marie Bouillon, a rejoint le groupe de Chartres et est devenu jusqu'à aujourd'hui un des principaux leaders de ce mouvement. Louis Dallière a continué à diriger les choses jusqu'à sa mort en 1971, en fin de compte. Et assez vite, le groupe de Chartres est entré en contact avec Thomas Roberts et des contacts assez étroits ont eu lieu entre Louis Dallière d'une part et Thomas Roberts d'autre part. Quant à Émile Dallière, le frère cadet de Louis, lui carrément a quitté l'Église réformée et n'a pas voulu accepter la reconfirmation du baptême et est allé ouvrir une église pentecôtiste indépendante, peut-on dire, en Normandie, à Évreux, où il a été pasteur donc jusqu'à un âge assez avancé. Donc ça c'est le deuxième pôle d'origine du mouvement charismatique en France. Il y a un troisième pôle qui est les églises baptistes du nord de la France. C'est en 1947 que le mouvement charismatique est arrivé parmi les églises baptistes du nord. En fin de compte, les églises baptistes du nord avaient déjà été touchées par le mouvement de Pentecôte dès l'arrivée de Scott en France dans les années 30, puisque le pasteur Pierre Nicole, qui fut un des pionniers du mouvement de Pentecôte en France, était pasteur baptiste à Lan-l'Affaire, donc dans l'Aisne, très exactement. Le pasteur Pierre Nicole avait été amené à quitter les églises baptistes pour prendre en quelque sorte en main le réveil qui notamment s'étendit en Normandie, en particulier de la ville de Rouen. Il lui avait succédé le pasteur Jean Werner, qui était un jeune pasteur à l'époque, et qui, dans ces années-là, dans les années 30, lui aussi, eut l'occasion de recevoir Douglas Scott à l'intérieur de son église, à l'intérieur de l'église baptiste. Et dans les années de guerre, Jean Werner fit l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est alors que, en fin de compte, c'était un pasteur baptiste qui s'appelait Paul Pelsé, qui était pasteur à Chauny, non loin de l'Affaire, qui avait invité de Glascott à faire des réunions à Chauny, à l'Affaire, à Lan et à Roubaix. Et c'est ainsi que le pasteur Jean Werner fut baptisé dans le Saint-Esprit dans une réunion que tint Scott à Saint-Sauveur, l'église de Saint-Sauveur, dans l'Oise. Et c'est à partir de là qu'il devint pasteur de l'Affaire pour succéder à Pierre Nicole. Ainsi, dans l'Aisne, un certain nombre d'églises baptistes et de pasteurs sont devenus pentecôtisants, tout en restant dans le cadre des églises baptistes. En 1947, donc juste après la guerre, un jeune pasteur originaire du Poitou, Jules Taubois, qui terminait ses études de théologie à la faculté de théologie de Paris, fut nommé pasteur à Chauny en remplacement de Paul Pelsé. Jules Taubois fit alors une expérience tout à fait marquante et rentrant un soir d'une visite sur une moto, là, les pasteurs n'avaient pas les moyens d'acheter des voitures, ils circulaient sur des engins à deux roues en général. Il percuta un camion et subit un grave accident, fut transporté à l'hôpital, la rate éclatée et déclaré mourant. Il avait entendu un peu parler du réveil charismatique, notamment de ce qui se passait dans la région de Lan-l'Affaire, et sa femme, apprenant que son mari était aux portes de la mort, téléphona à Jean Werner pour lui demander de venir prier pour lui à l'hôpital. C'est alors que Jules Taubois se rétablit contre toute attente et fut guéri, put reprendre son ministère peu après. Tant et si bien que Jules Taubois, conscient qu'il avait été l'objet d'un miracle de Dieu, se mit à rechercher les choses de l'Esprit, fut baptisé dans le Saint-Esprit peu de temps après. Et dans le même temps, la guerre qui avait quand même pas mal bouleversé la vie des églises baptistes du Nord, puisque le nord de la France avait été un des premiers à être envahi par les Allemands, et pendant toute la durée de la guerre, il avait été zone interdite, séparé même de la France dite occupée, n'est-ce pas, soumis à un régime spécial et particulièrement dur, tant et si bien que beaucoup de chrétiens baptistes avaient quitté le Nord pour se réfugier plus au Sud. C'était le cas d'un certain nombre de pasteurs, dont le beau-père de Jules Thobois, qui se nommait Rousseau, pasteur Rousseau, et qui vint s'établir en Poitou. Poitou, où il établit une église à Niort, une petite église baptiste dans la région de Niort, dans la région du Marais Poitevin. La guerre terminée, Rousseau retourna dans son église d'origine, Denain, et peu de temps après, donc, décida de quitter cette église pour se rendre, pour répondre à l'appel de l'église de Saint-Sauveur dans l'Oise. Le poste de Denain se trouvait à ce moment-là disponible, et ce d'autant que l'église de Denain était alors traversée par une crise très grave. Le mouvement de Pentecôte s'était étendu dans toute la région du Nord, et notamment dans la ville de Valenciennes, située à une douzaine de kilomètres de là, où le pasteur Falg était pasteur. Il avait quitté, puis il avait donc passé la main, en quelque sorte, à un autre pasteur qui lui succédait, le pasteur Valo. Et nombre de chrétiens baptistes, tant de l'église de Denain que de l'église d'Anzin, qui était une église voisine de Valenciennes, étaient touchés par le mouvement de l'esprit, avaient soif des choses de l'esprit. Les pasteurs de l'ancienne école, si on peut dire, dont Georges Rousseau notamment, justement, était particulièrement allergique à ce réveil charismatique, à ce réveil pentecôtisant, comme on l'appelait alors. On parlait à cette époque-là pas de réveil charismatique, mais de réveil pentecôtisant. Et pour cette raison, nombre des éléments les plus dynamiques de leurs églises les quittaient pour rejoindre les églises pentecôtistes. Et l'église de Denain était presque réduite à une poignée de membres lorsque le pasteur Rousseau a compris qu'il fallait donc que vienne quelqu'un qui avait cette vision charismatique pour redonner à l'église de Denain un peu de tonus. Et c'est là qu'il avait appris que son gendre donc était entré dans le réveil de l'esprit. Il invita donc son gendre à venir lui succéder. C'est ainsi qu'en 1948 plus exactement, Jules Thobois arriva à Denain. Immédiatement, il annonça la couleur et donna à l'église de Denain une orientation résolument pentecôtisante. Dans le même temps, son frère André Thobois avait été nommé pasteur de l'église voisine d'Anzin, l'église baptiste. Mais alors que Jules Thobois était entré dans le réveil, André Thobois y était resté étranger et allergique. Et c'est alors que l'église d'Anzin aussi traversa un moment particulièrement difficile, peut-être pas, c'était un bon problème, enfin c'était un problème. L'église pentecôtiste de Valenciennes connut un terrible drame. Son pasteur fut accusé d'adultère, à tort ou à raison. L'affaire n'a jamais été véritablement éclaircie. Toujours est-il que cette église éclata à la suite de cette affaire-là en deux. Deux parties égales, 52 personnes d'un côté, 52 personnes de l'autre. C'était tout à fait intéressant et tout à fait drôle. 52 personnes restèrent dans l'église de Valenciennes et 52 personnes débarquèrent un beau dimanche matin à l'église d'Anzin, donc où André Thobois était pasteur, et qui comptait quelques dizaines de membres en tout et pour tout. Si bien que en l'espace de quelques semaines, les pentecôtistes devinrent majoritaires au sein de l'église d'Anzin, et que André Thobois se trouva en face d'une église qui était devenue pentecôtisante, contre son gré, pourrait-on dire. C'est alors que André Thobois décida de quitter l'église d'Anzin pour faire appel aussi à quelqu'un qui aurait la vision du Saint-Esprit. En attendant de trouver celui-là, Jules Thobois donc commença aussi, à partir de Denain, à desservir l'église d'Anzin. Et c'est alors que, à partir de Denain, le réveil de l'esprit se répandit comme une traînée de poudre. Nous étions au lendemain de la guerre, les gens étaient encore profondément marqués par les drames qu'ils avaient vécus pendant cette période. C'était donc les années 49-50. Ces régions étaient encore très, très pauvres. Le travail était dur. C'était des pays noirs, des pays miniers, industriels. Et beaucoup de gens étaient dans des situations difficiles sur le plan matériel et sur le plan moral, tant et si bien que l'Évangile était une réponse à leurs problèmes. Comme je disais tout à l'heure, c'était souvent l'époque de, c'était l'époque où il y avait des nombreuses missions sous la tente, et c'est quelque chose qui marchait très bien à l'époque. Et alors là, ce qui donna une publicité extraordinaire au réveil, c'est essentiellement le ministère de guérison que manifesta très vite Jules Thaubois. Jules Thaubois sut s'entourer aussi de pasteurs qui étaient ouverts aux choses de l'esprit, Jean Werner d'une part, qui se trouvait donc toujours à l'Enlafer. Il y eut aussi donc Thomas Roberts, qui fut souvent invité, des pasteurs qui participaient à l'Union chrétienne, l'Union de Romande pour le réveil. Le pasteur de Rougemont va tenir des réunions aussi dans ces régions-là. Et puis, un pasteur pentecôtiste indépendant qui se trouvait à Argenteuil, le pasteur Morel. Alors, il y avait constamment à Denain un va-et-vient de pasteurs qui visitaient, qui entretenaient donc la flamme, en quelque sorte, tant et si bien que celle-ci se répandait constamment un peu partout. Je me souviens, dans ma petite enfance, d'avoir assisté à des services de baptême où 50 personnes étaient baptisées d'un coup. Une seule séance de baptême, il y avait 50 baptisés. Le pasteur Jules Thaubois eut aussi pu compter rapidement sur l'appui d'un riche industriel lillois qui se nommait M. Deville et qui avait été touché aussi par le réveil de Douglas Scott, qui était un homme très consacré et qui fit souvent don de sommes importantes pour pouvoir justement aider la progression de l'œuvre. C'est ainsi aussi que M. Deville invita Jules Thaubois à tenir des réunions à Lille, ce qui permet aussi l'implantation d'une œuvre de réveil, une œuvre baptiste réveillée, comme on les appelait à cette époque-là, dans la métropole du Nord. De Denain, le réveil se propagea dans les localités voisines. Et des missions d'évangélisation eurent lieu donc pour implanter des églises dans les villes voisines. Le premier objectif fut la ville de Cambrai, qui est située aussi à une vingtaine de kilomètres de Denain, où, après plusieurs années de travail, après que aussi des miracles de guérison impressionnants aient eu lieu dans cette ville, un local put être acheté grâce aux dons qui ont pu être recueillis de droite et de gauche, mais les membres des églises baptistes du Nord étaient en général des gens très très modestes et on ne roulait pas sur l'or à cette époque-là. Mais par un miracle extraordinaire de Dieu, un local put être acheté à Cambrai pour installer une église, dont un pasteur breton, Georges Guéguin, devint alors pasteur. Dans la deuxième, une deuxième mission d'évangélisation, effort d'évangélisation important eut lieu alors à Saint-Quentin, c'était déjà beaucoup plus loin. Et là, ça a été en gros l'apogée du réveil. Environ un millier de personnes se pressaient chaque soir sous la tente. Il y avait des miracles absolument extraordinaires. Jules Thaubois avait des collaborateurs locaux qui l'aidaient, professeur de un instituteur très exactement à cette époque-là qui se nommait Henri Rofidal, et puis un pasteur adjoint qui était venu de Suisse, d'Yverdon, originaire de Suisse, était un Suisse italien qui se nommait Aldo Benzi. Il y avait donc aussi quelques anciens qui commençaient à prêcher, qui pouvaient aider. Le pasteur Guéguin, qui est venu prêter main forte alors qu'il se trouvait aussi dans une église proche de là. Enfin, il y avait toute une équipe qui se succédait à Saint-Quentin. À Saint-Quentin, fut placé ensuite, après l'établissement de l'œuvre, lorsqu'il fallut établir une église, un jeune pasteur qui était originaire d'Anzin et qui se nommait Émile Duhem, qui malheureusement manquait considérablement de formation. Il a été formé comme ça, sans véritablement... Bon, il fallait parer au plus pressé. Et malheureusement, cette très belle œuvre de Saint-Quentin périclita très vite aux mains de ce jeune pasteur qui finit d'ailleurs par quitter les églises baptistes et rejoindre ensuite les assemblées de Dieu. À Anzin, pendant ce temps aussi, le pasteur Jules Taubois avait fait venir son beau-frère, qui était un pasteur d'origine suisse, qui se nommait Rossel, et qui était aussi un évangéliste de grand talent, et qui donc devint pasteur de l'église d'Anzin. Les deux beaux-frères ont fait une équipe assez percutante à cette époque-là, et Paul Rossel a aussi apporté sa contribution à ce réveil pendant toutes ces années-là. De Saint-Quentin, on étendit les cordages jusqu'à Charleville-Mézières. Alors là, c'était beaucoup plus loin, c'était presque trop loin d'ailleurs. Tant et si bien que là, le même problème se renouvela au bout d'un temps. Quand il fallut établir un pasteur, on n'avait pas véritablement de gens sous la main. Et des anciens venus de Denain ont desservi l'œuvre de Charleville au sens propre, au sens figuré du terme. C'est-à-dire que finalement, ils ont détruit beaucoup de ce qui avait été fait. Et finalement, l'œuvre de Charleville-Mézières finit par végéter et être reprise dans les années 70 par l'Église réformée, dans la mesure où le pasteur de l'Église réformée de l'époque était devenu charismatique. Nous avons l'occasion d'en reparler, c'était Gaston Ramseyer. Alors, il y a aussi un autre effort d'évangélisation important depuis Denain à Reims. Reims, alors là, c'était infiniment plus loin. Et il est certain que les pasteurs qui desservaient ces différentes annexes, en quelque sorte, c'était encore des annexes de Denain à cette époque-là, faisaient des centaines de kilomètres chaque semaine, et c'était évidemment extrêmement épuisant pour eux. Et puis, évidemment, les œuvres locales aussi en souffraient. Les pasteurs ne pouvaient pas consacrer à leurs églises toute l'énergie qui aurait été nécessaire. Et finalement, à partir du moment où Reims fut ouvert, le réveil commença considérablement à s'essouffler. Il faut dire aussi que à Reims, le pasteur Benzi, qui fut placé là justement lorsque l'œuvre fut déclarée autonome et majeure, lui aussi fut loin d'être à la hauteur de la situation. Et il avait quelques problèmes aussi sur le plan moral qui se sont révélés alors, de telle sorte qu'il fallut l'exclure. Et puis Aldo Benzi rejoignit donc les Assemblées de Dieu avec l'Église de Reims. L'Église de Reims, Assemblée de Dieu qui existe aujourd'hui, est une dissidence des Églises baptistes. De son côté, le pasteur Jean Werner évangélisait aussi les environs immédiats de son, et notamment des petits villages tels que Flines-les-Raches et surtout la grande ville de Douai. Douai, où une œuvre baptiste importante fut donc créée, qui devint d'ailleurs ensuite l'église mère de toute cette région-là, dont le pasteur Jean Werner était le responsable. Il avait autour de lui un certain nombre de collaborateurs, et notamment des jeunes. Et parmi ces jeunes, un jeune instituteur qui avait fait des études de théologie à la faculté de Paris et qui ensuite devint stagiaire dans cette région-là, il s'agissait de Lucien Clerc. Lucien Clerc qui, au bout de son stage, alors que le pasteur Georges Rousseau s'apprêtait à quitter Niort, lui succéda dans cette région-là. Et Lucien Clerc entreprit l'évangélisation du Poitou, depuis Niort en particulier. Et d'abord, après avoir évangélisé et établi des annexes dans les environs immédiats de Niort, tels que Saint-Mexant, Coulonges-sur-Lautise, dans les années 60, il entreprit l'évangélisation de Poitiers. Et Poitiers, où un travail lent et difficile fut lancé dans ces années-là, petite histoire, c'est là que je me suis converti. Et puis, par la suite, donc, il y avait dans le cœur du Poitou protestant, les petites églises protestantes, il y avait là, dans le village de Chenet, un monsieur, il s'appelait Milneau, qui avait été touché par différents réveils, notamment par le réveil de Scott, quand il était passé en Poitou dans les années 30, qui avait été touché par le réveil des brigadiers de la Drôme, et puis aussi qui avait été touché par une œuvre d'évangélisation qui avait été entreprise par un pasteur des églises libres. Il y avait non loin de là, dans la petite ville de Rouillé, une église libre qui existait déjà depuis un certain temps, et un pasteur de Rouillé avait eu à cœur d'évangéliser les environs. Puis, bon, les choses s'étaient arrêtées, mais Emilno avait soif d'autre chose. Et il s'est joint, donc, à l'église de Niort. Il allait, sinon chaque dimanche, du moins assez fréquemment, il se rendait à Niort, ce qui était quand même une bonne distance. Et là, il invita donc Lucien Clerc, à partir du moment où une œuvre fut ouverte à Poitiers, à établir une œuvre à Chenet. Et c'est ainsi que, à peu près à la même époque, une annexe de Niort fut établie à Poitiers, à Chenet. C'était une œuvre aussi qui était extrêmement difficile. Lucien Clerc était souvent très seul. Il avait avec lui des jeunes stagiaires, notamment qui venaient d'un centre de formation sur lequel nous allons revenir dans un instant, qui s'appelait La Porte Ouverte. Un certain nombre de jeunes sont venus, mais c'était des jeunes qui passaient pour un temps et qui partaient ensuite, souvent en mission d'ailleurs, puisque La Porte Ouverte était essentiellement une œuvre missionnaire dans ces années-là. Alors, les jeunes qui avaient subi un temps de formation passaient ensuite 2 ou 3 ans de stage dans des églises françaises et en général de là partaient en mission, si bien qu'il n'y avait pas de collaborateurs pour s'établir sur place. D'autant que d'ailleurs, l'œuvre, l'état financier de l'œuvre ne permettait pas de soutenir 2 pasteurs. C'est alors que à la fin des années 60, il y avait à Douai, et dans la région de Douai, dans l'église de Jean Werner, un couple de mineurs, Nubio Piovi et sa femme. Dans les mines, quand on travaillait dans les mines, on avait sa retraite très jeune. Il avait commencé d'ailleurs, lui, à travailler très jeune, si bien qu'il avait à peine 50 ans quand il a obtenu sa retraite. Nubio Piovi, qui était d'origine italienne, comme son nom l'indique, était très engagé dans l'œuvre locale, notamment comme ancien. Il desservait un certain nombre d'annexes, les nombreuses annexes qui dépendaient de Douai, sous la direction de Jean Werner. Il avait eu l'occasion d'effectuer des stages dans le Poitou, notamment pour permettre à Lucien Clerc de prendre un peu de repos à un certain moment. Et il a senti un appel pour venir s'installer dans le Poitou, de sorte que l'œuvre du Poitou a pu être scindée en 2 à partir de 1965, lorsque Nubio Piovi est arrivé et s'est installé avec sa nombreuse famille à Chenet. Sur le plan financier, il avait donc une retraite des mines, ce qui faisait qu'il était à l'abri du besoin, même si sa retraite était quand même très modeste pour une famille nombreuse comme celle-là, et bon, il a quand même tiré très très dur. Nubio Piovi était un ancien excellent, mais un piètre pasteur, il n'avait pas l'appel pour cela, si bien que l'expérience n'a pas été du tout concluante, notamment à Poitiers, qui était une ville quand même où il y avait pas mal d'étudiants, de gens d'un certain niveau intellectuel. Nubio Piovi n'a pas pu faire le poids. Et au bout de quelques années, il a quitté donc pour rejoindre les Assemblées de Dieu. Il est devenu pasteur des Assemblées de Dieu jusqu'à sa mort, dans le sud-ouest en particulier. Si bien que Lucien Clerc s'est retrouvé à nouveau avec l'ensemble de ses églises. Et là est venu donc dans les années 70 un autre collaborateur de Jean Werner, qui alors lui a pris l'église de Niort, tandis que le pasteur Lucien Clerc se rendait à Poitiers. Et là donc, les deux églises sont devenues autonomes. En 1971, l'église de Poitiers est devenue une église majeure, reçue officiellement dans la Fédération Baptiste. Depuis, le pasteur Lucien Clerc l'a quitté, d'autres sont venus. Moi, personnellement, j'ai perdu un petit peu de vue ce qui s'est passé. De même que l'église de Niort, où est resté longtemps pasteur, un pasteur qui était entré dans le réveil aussi, un pasteur baptiste, qui s'appelait André Cazac. Alors, ça, c'était donc les trois pôles du réveil charismatique, de l'origine du réveil charismatique en France. Thomas Roberts d'un côté et l'église de la rue de Musset à Paris, l'église pentecôtiste indépendante de la rue de Musset de Paris. L'union de prière de Charmes dans le sud-est de la France, en Ardèche, et dans le nord de la France essentiellement, le nord et le Poitou, mais essentiellement le nord quand même, les églises baptistes du nord. Les églises baptistes qui ont eu d'ailleurs de gros problèmes avec leurs propres autorités ecclésiales dans les années 50. Cette présence de l'église pentecôtisante a fait problème. Il y a eu des confrontations très vives et presque un éclatement de la Fédération baptiste. Finalement, il a été décidé que les deux parties se mettaient d'accord pour ne pas être d'accord. Alors, il y a eu un modus vivendi d'accepter, qui a été toujours conflictuel, disons, jusqu'à aujourd'hui, hein, et qui est resté conflictuel, mais finalement qui, tant bien que mal, a persisté. En 1963, le pasteur Jules Taubois a quitté Denain, fatigué par essentiellement le travail qu'il a effectué. Il avait aussi perdu un enfant, c'était moralement aussi quelque chose de très très dur. Et il est donc venu s'installer à Paris comme second pasteur, avenue du Maine, où son frère, donc André Taubois, en quittant Denain, il était devenu pasteur de la rue de Lille à Paris. Puis de là, il avait été devenu pasteur de la principale église baptiste de Paris, qui était l'église de l'avenue du Maine. Jules Taubois l'a rejoint en 1963. C'était évidemment quelque chose qui était temporaire. Les deux frères s'entendent bien, mais enfin, ce sont deux chevaux qui ont du mal à tirer la même charrette. Tant et si bien que c'était une situation d'attente. Dans ces années-là, le pasteur Thomas Roberts a décidé de prendre sa retraite de pasteur de la rue de Musset tout en continuant à maintenir ses réunions d'évangélisation, et l'église de la rue de Musset s'est trouvée disponible. Thomas Roberts a fait appel à Jules Taubois pour devenir pasteur de cette église. Et c'est ainsi que, dans les années 65, si ma mémoire est bonne, les 65, Jules Taubois est devenu pasteur de l'église de la rue de Musset à Paris. Et là, donc, il a commencé un ministère à nouveau charismatique, alors qu'à l'avenue du Maine, il avait dû mettre l'aspect charismatique en veilleuse. Et il a entrepris, sa vision était celle d'une évangélisation de Paris. Pour ce faire, il a créé dans ces années-là, les années 65, une mission qui s'appelait quelque chose qui s'appelait Mission Esprit et Vie. C'était l'époque où deux pasteurs anglais, William et Barat, avaient un ministère tout à fait particulier. Ils étaient originaires de Birmingham et ils passaient partout en Europe pour prêcher un réveil qui était un réveil tout à fait particulier, qu'ils appelaient le réveil par la prostration. C'est-à-dire que lorsqu'ils priaient pour les malades tombaient sous ce qu'ils pensaient, qu'ils affirmaient être la puissance de Dieu. William et Barat ont été invités en France par différentes unions d'église, et notamment ils sont venus faire une tournée dans les églises baptistes réveillées, comme on les appelait à cette époque-là. Donc les églises baptistes du Nord et les églises de la région parisienne, dont l'église de l'avenue de Musset. Et les églises du Poitou d'ailleurs aussi. C'est alors que donc Jules Taubois, enfin tous les pasteurs baptistes réveillés sont entrés dans cette vision-là. Jules Taubois a donc créé la mission Esprit et Vie pour répandre ce réveil par la prostration. Alors pour cela, il a fait venir son beau-frère, Paul Rossel, qui avait quitté Anzin entre-temps et qui était devenu second pasteur à l'église de réveil à Genève. et qui donc est venu pour seconder Jules Taubois. Puis un camarade de Nubio Piovi, qui était un ancien mineur comme lui, qui se nommait Fleury Aube. Et ils ont donc acheté un lieu de culte dans un endroit populaire de Paris, dans le 11e, rue Cavaignac, où ils ont entrepris des réunions à partir de ce réveil de la prostration. Ce réveil a provoqué des vives tensions dans la Fédération Baptiste, notamment de la part des éléments qui n'étaient pas ouverts aux choses de l'esprit. De telle sorte que, là aussi, on a été au bord de la rupture. Et finalement, les pasteurs réveillés ont dû faire machine arrière par rapport à ce réveil de la prostration et revenir à des vues un peu plus saines des choses. La mission Esprit-Vie a périclité. Il a fallu vendre la rue Cavaignac et les deux pasteurs qui étaient venus seconder Jules Taubois ont dû trouver autre chose. Et notamment, Paul Roussel a dû reprendre du travail dans le sud de la France. C'était assez catastrophique, finalement, cet échec de la mission Esprit-Vie. C'est alors que est venu le véritable réveil charismatique, proprement dit. Il y a un quatrième pôle du réveil charismatique qu'il nous faut évoquer aussi, c'est l'œuvre de la porte ouverte. J'ai fait allusion tout à l'heure et j'y reviens maintenant. L'œuvre de la porte ouverte à Chalon-sur-Saône a pour origine un missionnaire de tendance frère large qui se nommait Albert Burckhardt. Albert Burckhardt, qui était d'origine suisse, s'était converti en Suisse, avait été 15 ans missionnaire au centre de l'Afrique, en Centrafrique, et en 1955, il était rentré en France. Plus question pour lui de retourner en Afrique. Il avait une véritable passion pour la mission et c'était pour lui dramatique cette situation. Bon, il a prié, il me disait, Seigneur, comment se fait-il que tu m'arrêtes comme ça alors que les choses finalement marchaient bien. Et il avait un collaborateur qui se nommait Louis Bon, qui priait avec lui, cherchant la volonté de Dieu dans ce fameux hiver 55-56. Et c'est alors que Louis Pont a eu une vision, pas charismatique, enfin disons une idée, disons une vision du Seigneur, ce qu'ils ont perçu comme étant un appel du Seigneur. Et Louis Pont a dit à Abbé Burckhardt, puisque toi tu ne peux plus aller en Afrique, tu peux former des jeunes qui iront à ta place. Et c'est ainsi que les deux collaborateurs ont décidé de créer un centre de formation pour des jeunes qui seraient ensuite envoyés en mission. Il s'agissait de trouver un lieu. Les deux frères se trouvaient à Vichy, dans ce fameux hiver 55-56, et ils se sont mis à chercher, dans les environs, une propriété, un endroit où ils pourraient justement établir ce centre de formation. Ils n'avaient pas un sou vaillant, bien sûr, et tout cela se faisait par la foi. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, en cherchant de droite et de gauche, ils ont été amenés à Chalon-sur-Saône, plus exactement dans la banlieue de Chalon-sur-Saône, dans un petit village qui se nommait Lux. Et là, il y avait une vieille propriété à vendre, en ruine, pour une bouchée de pain, parce que justement, il y avait tellement de travaux, était tellement délabré que personne ne voulait de cette propriété-là. Albert Burckhardt et Louis Bon ont vu la main de Dieu, ils ont senti que le Seigneur les appelait à faire ce pas de la foi. Ils ont donc acheté par la foi le domaine de Lux, Chalon-sur-Saône, qu'ils ont appelé la porte ouverte. D'après le texte de la lettre à l'église de Laodicée, j'ai placé, tu as peu de puissance, c'était tout à fait leur situation, mais j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. En abrégé, ça s'appelle la PO, ça, c'est, jusqu'à aujourd'hui on parle de la PO, c'est-à-dire la porte ouverte. C'est ainsi que donc en 1956, ils ont commencé à fonctionner dans les locaux de la Porte Ouverte. La Porte Ouverte, c'est le cas de le dire, a ouvert ses portes. C'était l'époque, peu d'années après, donc, où Thiel Osborne est venu en France, donc 58, deux ans après à Rennes. Mais ça, il ne connaissait pas encore. Mais c'est essentiellement lors de la venue d'Osborne à Lyon que Albert Burckhardt a été bouleversé par le message de Thiel Osborne. Quelque temps auparavant, providentiellement, alors qu'il tenait des cultes dans le château, c'était un château de la Porte Ouverte, il était absent d'ailleurs, le Burckhardt, il était en voyage, je ne sais trop où, en Suisse, il est souvent en Suisse, c'était Suisse. Louis Pont lui téléphone en lui disant « Ce matin, au culte, nous avions une équipe de gitans. J'aime autant te dire que ça a remué sec. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Et c'est par ce groupe de gitans que la Porte Ouverte a commencé à s'ouvrir au réveil charismatique, alors que c'était plutôt une œuvre de tendance Frère Larche. Donc, quelques mois après, Osborne est à Lyon. Albert Burckhardt assiste aux réunions d'Osborne. Il est absolument saisi par le message. Et c'est ainsi que commence le véritable élan missionnaire. Là, il part, peu de temps après, 1961, pour le Centrafrique, où il avait donc été missionnaire lui-même, avec deux jeunes qui se sont joints à l'équipe de la Porte Ouverte, Pierre et André Gadefossé, et une jeune fille, Marie Kayoudjou. Et ils sont la première équipe missionnaire qui s'installe au Centrafrique, là où Burckhardt avait été missionnaire avant son retour en France. Et donc, à partir de ces années-là, 1963, c'est le grand tournant. Là, c'est à fond l'entrée dans la vie de l'esprit, dans la vie charismatique. Burckhardt se joint à l'Union de Romande pour le Réveil, qui tient alors ses réunions non plus au Mont Pèlerin, mais à Territé, au Grand Hôtel des Alpes. Il va devenir une des chevilles ouvrières essentielles des réunions des conventions de Territé. Il finira d'ailleurs par en devenir le président. Et c'est donc là une véritable épopée de la foi qui commence à partir des années 1960. En 1961, le 4 janvier, il quitte Marseille, avec toute une équipe, par Alger. Il traverse le Sahara dans des conditions absolument rocambolesques. Et là, donc, il établit une autre mission au Gabon. Il a déjà une mission américaine, mais il va s'établir là-bas. Puis ensuite, ce sera le Tchad. Alors, le Tchad, c'est la grande implantation de l'APO. À l'époque, le Tchad vient juste d'accéder à l'indépendance. Et le président du Tchad se convertit à l'Évangile et par conséquent ouvre toute grande les portes de la mission devant Albert Burckhardt. Albert Burckhardt a ses entrées constamment à la présidence de la République et c'est ainsi qu'il peut établir à Crampel une station missionnaire avec un autre jeune couple qui a été formé entre-temps, qui s'appelle Victor et Marie Susvalac, qui avaient été stagiaires à Poitiers, à Niort-Poitiers, et Marie Pfender. Puis une autre station sera établie à Batefango. Ensuite, Philippe Monod va s'installer à Carnot avec sa femme. En 1963, c'est le Cameroun, puis le Togo. 1968, alors c'est l'Inde. L'Inde et le Brésil, Mato Grosso, le Mato Grosso au Brésil, avec Christian et Evelyne Dufour, sa fille, qui a épousé donc un ingénieur agronome, qui s'appelle Dufour, et qui va donc, en même temps, avec des projets humanitaires en Inde, puisqu'on ne peut pas aller en Inde, évidemment, autrement que comme ça. Suzanne et Annette Rollet, qui sont deux jeunes filles suisses, acceptent de prendre aussi la direction d'un orphelinat en Inde, et avec l'aide de Gaston Lauré, qui va financer justement aussi l'installation de cet orphelinat, qui s'installe non loin de Madras. Alors, la Porte Ouverte devient un centre de rayonnement extrêmement impressionnant du temps de Burckhardt. Non seulement il a cet extraordinaire rayonnement missionnaire qui, en 10 ans, 15 ans, c'est pas parti de rien, il va y avoir une chaîne, n'est-ce pas, de stations missionnaires dans toute l'Afrique et au-delà. C'est assez impressionnant. Albert Burckhardt avait un ministère peu commun, une envergure extraordinaire. Il était capable d'enflammer des jeunes. Et alors se crée à la porte ouverte une espèce de communauté, on peut dire, avec centre de formation, avec centre de retraite et d'accueil. Se tiennent des retraites nombreuses pour le tout venant, aux grandes périodes de l'année, Pâques, Pentecôte. L'été, il y a une grande convention d'été, une convention de rentrée au moment où les étudiants arrivent aussi pour la formation, etc., etc. De là aussi, l'équipe de la PO, comme on l'a dit, est invitée pour faire des missions un peu partout, en France et au-delà, notamment en Suisse romande. L'équipe de la PO participe aussi aux conventions de Territé. À la PO viennent se former des gens non plus seulement pour la mission, mais également pour le pastorat. Et parmi les leaders du mouvement charismatique français, donc proprement dit, qui aura lieu dans les années 70, on trouve de très très nombreux jeunes qui ont été formés à la PO. Par exemple, Jean-Louis Jaillet, Samata Kordzian, d'autres encore, sont d'anciens équipiers de la PO. En 1963, Albert Burckhardt fait venir à la PO David Duplessis. En même temps qu'à Territé, c'est le début des interventions de David Duplessis à Territé. Et dans ces années-là, Albert Burckhardt prend la présidence de l'Union romande pour le réveil. Là aussi, c'est le moment où les réunions de Territé, les conventions de Territé atteignent leur apogée. Il y a des choses extraordinaires qui se passent un peu partout. Et là, c'est une formidable épopée de la foi. Évidemment, il y a un petit peu le mauvais côté des choses. C'est qu'Albert Burckhardt, avec son enthousiasme et son dynamisme, a toujours très, très regardant sur qui il prend. Il y a quelquefois des gens un peu douteux, des brebis galeuses au milieu de lui. Et puis surtout, on fait des reproches à Albert Burckhardt de baptiser aussi assez facilement des gens qu'on a refusé de baptiser dans d'autres églises et qui viennent aux conventions d'été. Et alors, beaucoup de pasteurs ont la désagréable surprise d'apprendre que des gens qu'ils ont refusé de baptiser pour différentes raisons, parce qu'ils ne marchaient pas droit avec Dieu, reviennent de l'APO, de la retraite d'été de l'APO, baptisés et donc membres d'église. Alors bon, des choses comme ça provoquent un certain nombre de tensions, parfois avec un certain nombre de pasteurs. Même chose aussi quand il prend des jeunes dans ses équipes, il n'est pas trop regardant sur les avis des pasteurs, un peu tout le monde peut aller se former chez lui, etc. Bon, c'est parfois un petit peu discutable. Enfin, par rapport à tout ce qu'il y avait de bon à cette époque-là, la PO, c'est peu de choses. Malheureusement, à la fin des années 60, le diable s'en mêle. Et en 1969, on apprend que Albert Burckhardt est tombé dans l'adultère. Il est donc mis sur la touche en catastrophe. C'est un coup terrible pour tout le monde. J'étais jeune à cette époque-là aussi, j'étais très marqué par cette chute. Beaucoup d'admiration pour Albert Burckhardt. Et donc, c'est son collaborateur et ami Louis Pont qui prend la succession de la porte ouverte. Malheureusement, Louis Pont n'a pas l'envergure d'Albert Burckhardt. C'était un bon second, excellent second, notamment pour tout ce qui était l'organisation matérielle. Il n'avait pas son pareil. Mais la porte ouverte est amputée, en quelque sorte, de l'essentiel de sa force de frappe, on pourrait dire. Elle n'est plus du tout après ce qu'elle avait été jusque-là. Et donc, 69, c'est le moment où le réveil charismatique venu d'outre-Atlantique va déferler sur la France. Et il va déferler sur la France à partir de ces quatre pôles-là, et même un cinquième pôle qui s'est créé entre-temps, qui est le Centre missionnaire de Carhaix. Le Centre missionnaire de Carhaix, qui a été donc fondé en 1967 par un jeune journaliste breton, Yvon Charles, qui donc reprend un peu la vision de la porte ouverte. Yvon Charles a visité la porte ouverte, était aussi très saisi, très bouleversé par ce qu'il a vu là-bas. Et Yvon Charles, en tant que journaliste, qui est très proche de Clément Cossec, lui aussi breton, et qui l'a beaucoup conseillé, etc., découvre dans les années 70 le réveil charismatique outre-Atlantique. Et c'est en 1971 que le moine trinitaire, baptisé dans le Saint-Esprit, Jean-Paul Réginbal, originaire du Canada, va venir en France, à Carré, pour une première rencontre pastorale, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, et de cette mémorable visite de Jean-Paul Réginbal à l'automne 71 à Carré, va naître le mouvement charismatique en France, qui va rayonner à partir de ces cinq centres dont nous avons justement parlé. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions ?